Bonsoir, oh, ça faisait apparemment plusieurs mois que les futurs mariés en parlaient. Dixit, eh bien, le président de Gemalto, qui va convoler avec Thalès. Oui, l'idée pour un petit peu moins de 5 milliards, c'est de faire un géant mondial de la sécurité informatique, un secteur en pleine expansion, et la bourse y croit, elle l'a dit cet après-midi, vous allez le voir, les terrains eh bien, sur lesquels les deux tourtereaux vont se déployer, ils sont immenses, hein. Les drones autour des aéroports, le paiement à distance, la sécurité de tout type de plateforme, les objets connectés. Alors, Gemalto, Thalès, est-ce notre nouvel ange gardien? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Allez, on vous en parle, hein. On vous en parle déjà depuis quelques jours, parce que Atos, évidemment, s'était déclaré pour mettre la main sur Gemalto. Atos qui a tout laissé tomber hier à l'issue d'une journée pleine de rebondissements. Et qu'on vous a raconté depuis tôt ce matin avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business sur BFM Business. Je disais, la bourse a salué tout ça. Les titres Thalès, Gemalto en hausse. Thalès plus 8%, Gemalto plus 5,5%. Nos décodeurs de l'écho ce soir, que des experts, que des spécialistes. Vous en connaissez beaucoup. Nicolas Arpagian, bien sûr, directeur scientifique, expert cybersécurité à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Anne-Sophie Bordry, présidente du think tank Objets Connectés, dont l'objectif est de structurer, d'accompagner le secteur. Frédéric Simotel, bien entendu, qui s'est réveillé très très tôt, vous entendez depuis ce matin, éditorialiste high-tech à BFM Business. François Chopard, président de l'incubateur Starburst Accelerator, membre du GIFAS, hein, c'est le premier incubateur au monde entièrement dédié aux startups du secteur aéronautique et spatial, puisqu'on parlera beaucoup de défense. Et puis avec nous également Olivier Hersant, président d'Actility, spécialiste de l'Internet des objets qui gère les infrastructures des objets connectés, concurrent de Sigfox. Allez, Frédéric Simotel, voilà, la journée se termine justement, c'est le moment un petit peu de faire le bilan. Pour qu'on se rende bien compte de l'importance de cette annonce, est-ce qu'on peut parler d'un événement au niveau mondial quand même, ce mariage Thalès, Gemalto?
Oui, parce qu'on voit, quand même un géant. Enfin, Thalès, c'est déjà un acteur important, hein, qui pèse plus de 15 milliards d'euros. Mais là, voilà, dans le domaine de la sécurité, il se renforce. Alors, l'ensemble va peser un peu plus de 18 milliards d'euros. Ça va faire à peu près 90 000 personnes. Donc, c'est quand même voilà, un point imposant. Alors, Thalès, bien connu dans l'aéronautique, le spatial, le transport terrestre, la défense, la sécurité. Et là, oui, c'est un acteur qui commence à compter, avec une division sécurité qui va être qu'on peut évaluer aux alentours de 3,5 milliards de poids, hein, de chiffre d'affaires. Mais ça va aller plus loin, parce que ça va pas être une simple division sécurité chez Thalès, ça va vraiment irriguer l'ensemble des autres activités de Thalès, hein. Thalès l'a dit, ça va être dans la surveillance aérienne, ça va être dans le domaine de la défense. On va vraiment mettre partout ces technologies de sécurité. Donc oui, on a un acteur dans la sécurité là qui est en train de se renforcer aujourd'hui. Et puis Thalès, c'est les nouveaux axes de développement de Thalès aujourd'hui, c'est autour du digital. Mmh. Et voilà, on voit une nouvelle illustration de cette stratégie.
Un acteur de poids, un acteur franco-français qui peut talonner donc le numéro un mondial du secteur, l'américain Symantec, Nicolas Arpagian. Il faut saluer cette opération.
Alors, il faut déjà, parce que ça permet déjà de trouver un avenir et un futur à Gemalto. C'est-à-dire que dont une partie de l'activité était en tout cas malmenée, mais liée aux évolutions technologiques. Et on peut également se réjouir que ce soit effectivement une entreprise française. C'est pas un fonds d'investissement, c'est pas à des fins strictement spéculatives. C'est bien quelqu'un qui n'a pas vocation à démembrer, à déstructurer, donc à perturber l'écosystème, c'est quelqu'un qui au contraire souhaite miser sur la compétence et l'intégrer dans ses services. Donc c'est, alors, modulo effectivement l'offre telle qu'elle avait pu être préfaite par Atos, mais évidemment c'est une des options les plus favorables, c'est-à-dire lorsque la famille France arrive à se coordonner, met de côté les égos, met de côté les rivalités, les histoires anciennes et fait en sorte qu'un projet puisse être porté. On a vu l'alignement de planètes, les conseils d'administration et le pouvoir politique. J'ai cru comprendre qu'ils étaient ce matin chez le ministre de l'Intérieur, qui effectivement ne pouvait que là aussi bénir ou en tout cas se réjouir, en tout cas soutenir le projet. C'est vrai que là, le collectif France a joué. Et c'est vrai en tout cas que cette activité-là, elle méritait de rester dans une culture et dans une logique de souveraineté.
Le collectif France a joué, Anne-Sophie Bordry, Olivier Hersant, François Chopard, donc la France témoigne de son génie en la matière. Anne-Sophie.
Alors, c'est certainement la fin des cartes à puce et des cartes SIM, mais Gemalto est très puissant dans la cryptographie et c'est un très bon signe pour les Smart City. La Smart City, c'est des objets connectés qui s'intègrent dans la vie publique et qui ont donc un impact sur l'univers politique et la société de demain. Et je pense que c'est une très bonne option de Thales de s'intégrer avec cet écosystème, cette acquisition de Gemalto.
Oui, François Chopard, enfin un concurrent sérieux ou pas pour les géants américains, les GAFA et autres, hein?
Ouais, c'est vrai que, en tout cas dans l'aéronautique, le spatial et le défense, on voit de plus en plus de logiciels intervenir avec les risques de hacking d'un avion, d'un aéroport, et ça extrêmement présent sur le sol américain. La combinaison des deux, hein, de Gemalto avec ses capacités de biométrie et de cryptage, avec toute l'expertise de Thales dans le trafic aérien et le contrôle des avions, ça va leur donner une force incroyable pour justement venir se développer aux États-Unis, et aux États-Unis où il y a pas d'offres équivalentes, hein, si on prend les Raytheon, les Lockheed Martin et autres, ils n'ont pas cette double compétence, et donc on est content d'avoir un champion qui va pouvoir se développer sur le sol américain, bien sûr, mais aussi partout à l'international.
Complémentarité sur laquelle on insistera tout au long de ces décodeurs de l'écho. Allez, encore un mot pour aller planter le décor, puis on reviendra sur les applications concrètes qui sont formidables. Vous allez nous expliquer dans un instant. Olivier Hersant à la tête d'Activity, sur la force déployée par le nouvel ensemble.
Oui, on disait à l'instant la fin des cartes SIM. Les cartes SIM, il y en a un nombre qui est proportionnel au nombre d'êtres humains. Et je dirais que la carte SIM, elle meurt pour mieux renaître sous un autre nom, qui s'appelle le Secure Element, et avec plusieurs zéros de plus. C'est-à-dire que ces éléments sécurisés vont se trouver demain dans tous les objets connectés autour de nous, puisque la sécurité est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer du tout, et proportionnel au nombre d'objets. Et donc, on risque d'avoir un x100.
Voilà, et justement, d'où l'importance de ce nouvel ensemble. Juste Frédéric Simotel, puisque Nicolas Arpagian lui disait, le rôle de l'État, juste un mot qu'on rentre un tout petit peu dans les coulisses, il s'est engagé pour l'un ou pour l'autre, quand je dis pour l'un ou pour l'autre, Atos, donc la semaine dernière, et là, donc Thales, où ils sont restés plutôt neutres. Est-ce que l'État s'est investi?
Non, ils sont restés
l'État est actionnaire de Thales.
Non, ils sont restés plutôt neutres. Puis pour reprendre ce que vient de dire Nicolas, c'est vrai qu'il y aurait eu un acteur étranger dans l'eau, il y aurait peut-être eu un peu plus de remous. Là, ça restait, même avec Atos, ça restait dans le giron français, des technologies françaises. Donc voilà, il y a cette histoire. Il y a quand même un petit bémol, puisque Gemalto, donc avec les difficultés que rencontre sa division
carte à puce.
Est dans un plan de réduction d'effectifs, en dehors d'un peu moins de 300 personnes. Philippe Vallée a confirmé ce matin, ici même, chez Stéphane Fumier, qu'il maintenait ce plan social. Maintenant, de l'autre côté, ils ont affirmé avec Patrice Ken, le patron de Thales aujourd'hui, qu'ils allaient ouvrir une bourse des recrutements, enfin voilà, qu'il y aurait certainement des opportunités pour ces 288 personnes qui pourraient rejoindre, enfin qui vont rejoindre le groupe Thales, voire même aller travailler vers une bourse d'emploi externe avec des partenaires de Thales. Donc le gouvernement va regarder évidemment cette histoire d'emploi de près, mais au niveau de l'actionnariat, au niveau, bon, il y a la BPI aussi qui est actionnaire de Gemalto. Non, c'est plutôt une opération, on est dans des technologies sensibles, ça reste dans le territoire, même s'il y a beaucoup de choses chez Gemalto qui sont développées aux États-Unis, même s'il y a, voilà, ils ont tous des centres de développement internationaux, mais voilà, il y a une coordination, une gouvernance qui reste française, européenne.
Ils ont discuté depuis des mois, Dixit Philippe Vallée, Dixit Patrice Ken, donc ce matin à la conférence de presse. La piste Atos, elle était sérieuse ou c'était un peu pour faire semblant? Parce qu'on a l'impression qu'il a jeté l'éponge un peu vite hier soir, Thierry Breton,
ça,
non?
Ça s'est accéléré, c'est-à-dire que Gemalto a perdu beaucoup de sa valeur, avait une action à 32 euros, et là, c'est vrai que le patron de Gemalto, enfin avec ses actionnaires, ils se sont sentis un peu fragilisés sur ce marché. Ils se sont dit, oula, on va pas pouvoir rester longtemps comme ça tout seul, on sent qu'on est une proie facile. Ils avaient eu des discussions avec Thales, ça s'était un peu Il s'était un peu plus rapproché aux alentours de fin septembre, c'est ce qu'ils nous ont expliqué. Et puis là, Thierry Breton a donné un petit coup d'accélérateur à ce rapprochement en proposant alors 32 euros. Thierry Breton a proposé une offre à 46 euros qui valorisait l'ensemble à 4,3 milliards. Et derrière, Thalès est venu surenchérir. Voilà, ils ont calculé en se disant...
4,8 milliards au final.
Atos n'ira pas plus haut qu'à 50-51 euros l'action qu'une offre à ce
qu'il en était vraiment sûr, là, je ne sais pas. D'où ma question. Est-ce qu'il a laissé un petit peu tomber rapidement hier soir, Breton?
Je pense qu'il repart sur d'autres cibles.
Oui, François Chopard.
Ouais, si on regarde les activités d'Atos et de Thalès, on voit que... Thalès a potentiellement beaucoup plus de synergie avec Gemalto que pouvait en avoir Thalès. D'où
plus axé sur les services Atos, c'est pour ça peut-être.
Ouais, plus axé sur les services, alors que Thalès a énormément de produits qui soit vont se transformer en drones, mais produits qui ont besoin d'être sécurisés dans des environnements critiques de la défense. Et donc de par cette connivence et ces synergies plus importantes d'un point de vue business, non pas d'un point de vue coût, hein, c'était normal que Patrice Caine puisse offrir plus, ou en tout cas valorise mieux Gemalto que Atos.
C'était plus cohérent d'après vous, Frédéric?
Oui, Thierry Breton parlait d'une offre amicale, mais on a vu, l'offre a été rejetée au bout de quelques heures par Gemalto, alors que là, on l'a vu ce matin, on l'a montré encore, les deux patrons, Patrice Caine
et leur conseil d'administration, parce que c'est vrai que c'est là où
Nicolas Pagian.
Il y avait forcément un délai de travail en amont, puisque les deux conseils d'administration ont voté, enfin, ont soutenu le projet, et donc ça montrait qu'il y avait quand même une implication et une volonté d'aboutir, et c'est là difficile, effectivement, pour quelqu'un qui dont l'offre est rejetée, effectivement, de la maintenir. Alors même s'il a laissé pendante, dès lors que si l'offre, effectivement, Thalès n'aboutissait pas pour X raisons, bien sûr, il avait dit qu'il maintiendrait, Thierry Breton a dit qu'il maintiendrait sa proposition.
Alors, pour en faire quoi ce mariage? Vous avez déjà, d'ores et déjà, abordé quelques pistes, quelques petites pistes par rapport sur un océan, justement, de possibilités. Faire un géant mondial de la sécurité informatique. Patrice Caine, donc, ce matin, à la conférence de presse, hein, que disait-il? Nous pouvons ouvrir de nouveaux marchés à Gemalto. Tiens, par exemple, celui de la sécurité dans les aéroports. On écoute Patrice Caine, on revient. C'est un exemple parmi d'autres.
Prenez le domaine du contrôle du trafic aérien. Un des plus grands soucis aujourd'hui des contrôleurs aériens, c'est de gérer les drones. Les drones qui sont très proliférants aujourd'hui. On ne pourra pas les gérer avec des contrôleurs eux-mêmes. Ils sont tellement proliférants, tellement nombreux, qu'il faut envisager de les gérer de manière autonome, automatique. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut pouvoir les identifier de manière numérique et très sécurisée. Et ça, typiquement, c'est la force de Gemalto. Donc vous mettez de l'intelligence artificielle venant de Thalès, son savoir-faire dans le contrôle trafic aérien de Thalès, avec la sécurité de l'objet lui-même, ça c'est Gemalto, et vous créez une réponse, si je puis dire, ou une offre qui aujourd'hui n'existe pas et qui correspond à une des grandes ambitions des contrôleurs de trafic aérien en France et dans le monde.
Voilà, le mélange de l'intelligence artificielle de Thalès et de la sécurité donc générée par Gemalto. Et on arrive donc sur ces synergies donc voulues. François Chopard, explication sur ce que dit Patrice Caine.
Oui, si on veut faire une comparaison en tant qu'individu, on a tous une carte bancaire hein, qui nous est propre avec une puce cryptée, chiffrée. Hein. Bah, il faut imaginer la même chose pour un drone. Hein. C'est-à-dire que le drone, on a besoin de savoir là où il vole, à qui il appartient, quel type de drone il est. Et donc ces informations, il faut pouvoir les stocker quelque part, les crypter et faire en sorte que le drone va communiquer avec une sorte de tour de contrôle de manière complètement automatique. Et pour ça, il faut que les informations soient sécurisées, cryptées. Et c'est la combinaison d'un Thalès qui fait du trafic aérien d'avion, mais qui est en train de s'appliquer la même chose aux drones, avec un nombre important de drones qu'il faut pouvoir traiter de manière automatique et de manière individuelle et cryptée.
Olivier Hersan, président d'Actility, justement, reprenons toujours cet exemple des drones. On en verra d'autres après.
Pour les drones, de manière générale, les objets, la sécurité, c'est vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que vous avez besoin de cette carte d'identité sécurisée de l'objet, qui est effectivement un des domaines de Gemalto. Mais le cloud aussi, et le cloud est encore plus sensible, puisque quand vous piratez l'objet, vous en piratez un. Quand vous piratez le cloud, vous piratez tous les objets. Et donc cette sécurité, c'est un tout qui aujourd'hui se complexifie énormément, et le niveau de sécurité qui est exigé aujourd'hui des déploiements augmente sans cesse. C'est-à-dire que les menaces sont aujourd'hui à un niveau extrême.
Et l'un ne pouvait pas faire sans l'autre, bien entendu, Anne-Sophie Bordry.
Exactement. Et puis, les constructeurs d'objets connectés ne veulent plus utiliser des cartes SIM, mais des moyens d'authentification différents, qui peuvent être l'authentification par code, biométrie ou chiffrement. Et ça, c'est extrêmement important pour sécuriser des objets connectés qui seront en Smart City ou alors à la maison. Donc ces notions-là, si elles sont assurées par Gemalto, un champion européen et peut-être prochainement leader mondial, c'est une très bonne chose.
Et ça pose, Frédéric Simotel, la question donc de ce passage obligé sur la notion d'identité numérique. François Chopard disait, ce drone, à qui il est? Qui est-il, justement? Et cette question, on peut la poser surtout, justement, les individus, les cartes, les véhicules, etc., etc. Enfin, c'est infini. Hein.
Oui, et Gemalto propose à la fois le système pour identifier ces équipements, mais aussi la plateforme de gestion, de configuration, de tout ça. Donc, c'est ça aussi qui l'apporte à Thales. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on parle à identification numérique, voilà, avec les drones, mais identité numérique, on peut aussi en parler au niveau des individus. Et ça, c'est très bien. Mais on a aussi envie de choses assez souples, c'est-à-dire de ne plus avoir à rentrer 10 mots de passe, ouais. De ne plus avoir les. On va parler des contrôles dans les aéroports, voilà, qui est tout un tas de technologies qui, en se combinant et avec des algorithmes, permettent de rendre ça assez souple pour l'utilisateur, pour le voyageur qui ne va pas se retrouver à passer 5-6 barrières, mais tout ça va se faire automatiquement. On va repérer qu'il arrive à l'aéroport, on va repérer par son mobile que c'est bien lui, on va repérer que sa voiture est bien garée à l'aéroport, voilà, on va faire plusieurs coordinations et se dire allez, après tout, ça doit sans doute être bien lui qui...
En fait, c'est...
Nicolas Arpagian.
C'est la logique comportementale. C'est-à-dire qu'on va pas prendre ce qui était l'identifiant, le mode de singularisation des individus
classique,
jusqu'à présent.
Voilà.
Voilà. Et on s'est aperçu que soit il était piratable, soit il était, en tout cas pas suffisamment robuste. Et donc, on va multiplier les facteurs pour faire en sorte que, alors, on a évoqué la biométrie. Après, bon, la biométrie, on a vu que pour certains domaines, elle était, elle pouvait être défaillante.
Faillible,
voilà, c'est ça. Et puis, on va essayer de multiplier les éléments. La seule chose, c'est que ce qui est certain, et c'est un des enseignements intéressants, c'est que la nouvelle génération du numérique ne peut plus ignorer la question de la sécurité des usages. Et ça, c'est un élément qui est très important parce qu'on est passé de la génération de l'équipementier qui disait « je fournis un service uniquement avec cette seule préoccupation de sa performance technique ». Maintenant, il ne pourra pas, ou en tout cas, ce sera un élément de plus en plus...
Ignorer la question de
la question de la sécurité. Ouais. Vous évoquiez l'identité.
Ouais.
Qui est ce drone, mais également quels sont les droits ouverts sur ce drone. C'est-à-dire, est-ce qu'il est autorisé à circuler, par exemple, au-dessus, vous évoquiez les aéroports, il est possible que pour l'entretien des pistes, on puisse tout à fait avoir les services de l'aéroport, avoir un drone. Donc, bien savoir que c'est ce drone-là qui a telle finalité, et par contre, celui d'un étranger, d'un visiteur, d'une tierce personne, ne serait pas légitime à avoir cet usage-là. Par contre, on va bien voir que ça va se faire dans une logique également de compilation de données et qu'il va falloir protéger. Pourquoi ? Parce que vous aviez évidemment la question de la vie privée, la question surtout de l'exploitation de ces données qui peuvent être monétisées, valorisées par des gens mal intentionnés. Et donc vous voyez bien qu'il s'agit d'une part de sécuriser l'usage, mais également l'actif que représentent ces données numériques agglomérées.
Je cite Philippe Vallée, donc le patron de Gemalto, je ne sais plus si c'était ce matin avec Stéphane ou si c'était un petit peu plus tard, mais il disait on pourra passer à l'authentification silencieuse, c'est-à-dire déterminer si une transaction, puisqu'on parlait des transactions bancaires notamment, peut être acceptée ou s'il faut demander des contrôles supplémentaires. Voilà, Anne-Sophie Bordry, justement, il faudra assouplir tout ça. Ça sera différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent?
Oui, alors jusqu'à présent, on a déjà le e-commerce où il suffit de rentrer le numéro de la carte bancaire et il n'y a plus rien d'autre à faire, il y a simplement un code. Si demain, on a l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale pour faire un simple paiement, ça sera conforme aux usages. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est le paiement en mobilité. Donc, il faut absolument s'adapter à la consommation d'aujourd'hui.
Et l'idée, Frédéric Simotel, quelque part, quand on sécurise toutes ces plateformes, qu'elles soient bancaires, qu'elles soient de transport, qu'elles soient des trains, etc. L'idée, finalement, avec ce mariage, comme d'autres pourraient être envisagés, c'est de maîtriser toute la chaîne.
Exactement.
Du début jusqu'à la fin.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas assimiler ce rachat de Gemalto par une simple division de sécurité qui se rajoute comme la 6e ou 7e division de Thales, mais vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus transversal, qui va venir irriguer chacun des secteurs de Thales. Et justement, on peut imaginer dans le domaine du militaire, il y a le soldat connecté sur le champ de bataille qui a tout un tas de données.
Ça va,
et on va aller jusqu'à les moyens, les chars qui seront un jour autonomes, les avions qui seront un jour autonomes. Voilà. voilà, on va avoir tout cette chance et tout l'ensemble de ces données va être sécurisé. Ça va être dans des clouds, hein, puisque là aussi on est dans ce domaine-là. Donc voilà, on voit une offre assez technologique, assez avancée et qui fait donc de Thales, oui, un acteur qui va compter dans le monde de la sécurité, pour revenir à votre première question.
Oui, François Chopard.
Oui, non, si on reprend cette idée, demain, les voitures n'auront plus de pilotes, seront complètement connectées, les avions n'auront plus de pilotes, seront plus connectés. On parle de voitures volantes sans pilote et connectées. Il faut pouvoir...
Mais il a pris cet exemple-là, Patrice Kane, cet après-midi, ce matin, en conférence de presse, sur la complémentarité des deux groupes dans la voiture connectée. Thales, champion de la connectivité d'un côté, Gemalto, champion du matériel, l'un et l'autre, unis justement pour faire des voitures sûres, qu'elles s'arrêtent pas en cours de route, qu'elles soient pas piratées, etc., etc.
Et oui, et on est vraiment là pour contrer ces risques de piratage. Hein. Hein, on voit là, aujourd'hui, on a des piratages de sites internet, de hackage de données bancaires. Hein. Il faudrait pas que il se passe la même chose pour les véhicules autonomes, par exemple, hein, et que on se retrouve pas dans les scénarios catastrophes. Donc, il faut pouvoir identifier tous ces véhicules et objets. Être sûr que ils sont pas mal intentionnés, mais il faut pouvoir crypter le véhicule lui-même, mais aussi les liaisons de communication qui vont du véhicule vers les centres de contrôle.
Olivier Ressort, la tête d'Actility.
Oui, un des enjeux que je voulais souligner pour la France, hein, plus généralement, je vais prendre une analogie pour l'expliquer. Quand vous perdez votre carte d'identité, on vous demande un extrait d'acte de naissance. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque part un registre qui fait foi. On a exactement le même problème pour les objets connectés. Vous avez certes une petite puce qui est votre mini carte d'identité dans l'objet, mais actuellement, il y a un gros enjeu qui est de construire le registre d'acte de naissance de tous les objets dans le monde. Et la société, la France, est extrêmement bien placée dans ce domaine-là. Vous l'avez rappelé, vous avez nous, vous avez Sigfox, vous avez les leaders de la sécurité dont on parle maintenant. Et la France est vraiment au premier rang pour construire ce registre qui sera nécessairement mondial et qui sera un peu l'endroit où vont se retrouver toutes les cartes d'identité de tous les objets dans le monde.
Anne-Sophie Bordé, la France, elle peut se faire une place, justement, on parlait du génie français tout à l'heure.
Oui, je pense qu'elle peut, et elle prend le chemin grâce à cette Gemalto et Thales, parce que c'est aussi très important de voir que pour les constructeurs, c'est beaucoup moins cher d'intégrer une technologie et un registre d'identification et de chiffrement de tous les objets connectés qu'on construit, plutôt que d'intégrer une carte SIM avec un connecteur, créer une trappe, et ça prend énormément de place dans l'objet. Donc si on arrive à créer un leader dans ce domaine, on a une chance d'avoir un leader européen et peut-être un challenger aux États-Unis.
Frédéric Simotel de BFM Business.
D'ailleurs, ils l'ont dit ce matin, je sais plus si c'est Patrice Kane qui le disait, ou Philippe Vallée, Patrice Kane, patron de Thales, ou Philippe Vallée, le patron de Gemalto, qui parlait de si on réussit à avoir un standard autour de l'IoT, ça pourrait nous donner
l'internet des objets, voilà.
Ouais, oui, l'internet des objets, voilà. Et ça pourrait être vraiment nous donner une force assez importante, devenir vraiment des puissants sur ce marché. Et ils espèrent qu'en étant un géant de cette taille aujourd'hui, pouvoir quelque part pousser des standards comme on a pu le faire à une époque dans le mobile où l'Europe avait à l'époque une forte présence et une forte supériorité.
Oui, Anne-Sophie Bordry.
Je dirais simplement qu'il y a un grand marché en développement parce qu'aujourd'hui 80% des objets connectés sont paramétrables sur du Wi-Fi, donc peu sécurisés. Et si demain ils intègrent les technologies Gemalto, il y a un énorme marché de milliards d'objets connectés qui seront à la fois à la maison, sur les personnes pour le quantified self, les données personnelles, et aussi dans la rue, en smart city, dans les voitures. Et donc, ce marché est énorme.
Nicolas Arpagian, vous qui venez régulièrement nous parler de tout ce qui est piratage en tout genre, cette annonce-là de ce mariage entre Gemalto et Thales, c'est une tuile pour tous les pirates tout poil dans le monde ou pas?
En tout cas, ça prouve en tout cas que l'industrie s'organise pour faire en sorte que les produits, les services qu'elle met à disposition du grand public, des entreprises, des administrations ou des forces armées intégreront de plus en plus les questions de sécurité. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, maintenant, va venir un peu de politique, certainement. On rappelle que Thales a l'État à son actionnaire. Effectivement, il est possible, notamment du côté de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'à un moment, on dise, mais attendez, est-ce qu'on peut encore confier des contrats à cette entreprise? Voilà. Donc là, on va rentrer dans une géopolitique qui va aller au-delà des compétences techniques, qui va être quelquefois peut-être un peu de matinée de mauvaise foi, c'est certain.
Normal.
Mais un certain nombre d'acteurs vont effectivement maintenant peut-être s'interroger sur la question peut-on faire confiance. Et c'est toute la question, justement, qui va se jouer désormais. Vous parliez de technologie de sécurité, certes, mais c'est vrai qu'en tant que Français, spécialement, et en tant qu'Européens, nous avons là une logique d'un équipementier de confiance. Et ça, c'est une notion qui est importante parce que, effectivement, à un moment où on parle de fuite de données, d'application de législation qui impose ou en tout cas permettent l'exportation vers d'autres pays des données collectées à l'occasion de la prestation de services dans des entreprises ou des administrations, on a là un acteur dont effectivement les entreprises, les administrations françaises et européennes peuvent en tout cas peuvent miser sur la confiance. Et ça, c'est vraiment être très important parce que on voit bien que ce sera un élément différenciateur sur le marché. La question maintenant, c'est que les entreprises qui vont acheter des solutions, est-ce qu'elles prendront en compte cet argument ou pas ? Alors vous allez me dire, quand on peut vous menacer que vos données partent dans un pays concurrent, vous allez en général vous prémunir contre cela.
Et se protéger avec le français, oui.
Voilà, la seule chose, c'est que maintenant, il va falloir que dans les stratégies des grands donneurs d'ordre, des grands commanditaires, à un moment, ils aient cette culture de la sécurité, de la valeur de l'information, de manière à dire, je n'applique pas uniquement ça parce que j'ai des sanctions, telles que la Commission nationale informatique et liberté, le règlement européen sur la protection des données, je ne le fais pas uniquement pour être en conformité, mais je le fais bien parce que je suis conscient de la menace que représente le vol d'informations à portée économique. Ça va quand même être un élément important. Pourquoi ? Parce que il faut maintenant que cet acteur, il ait des clients, il ait des entreprises qui se disent « Ah oui, effectivement,
j'y vais
et ouais. je peux concevoir cette, cette alternative par rapport à des grands acteurs, notamment américains, mais déjà installés. »
Alors, un mot chacun, chacune, Anne-Sophie Bordry et Frédéric Sibotel, puis on se retrouve juste après. Anne-Sophie Bordry,
je dirais simplement
le think tank de l'Internet des objets.
La confiance, c'est un enjeu de compétitivité pour les groupes. Ce matin, la Caisse des dépôts, l'Axel, c'est l'association du numérique, a sorti un observatoire sur les objets connectés. Et le premier frein des grands utilisateurs grand public mass market, c'est la confiance, l'usurpation. Et donc, si on a un majeur français, ça permettra au marché de se développer. Et c'est vraiment extrêmement important dans la compétitivité d'intégrer la confiance et du coup, la sécurité des données.
Alors, cette confiance sur le territoire français, mais ce que disait Nicolas Arpagian, aux États-Unis, est-ce qu'ils vont pas faire un petit peu de mauvaise foi en disant... Ah oui, il y a l'État actionnaire à hauteur de combien
c'est 36%.
Oui, c'est ça. Voilà.
Il a répondu ce matin, Patrice Kane, là, sur, il a dit, vous savez, aux États-Unis, Thales est un citoyen américain. Hein. On développe des solutions, on équipe, alors, je crois, en radio, toutes les forces spéciales. Enfin, il y a cette confiance qui est établie avec le...
Puis rachète, justement, notamment des têtes de start-up américaines.
Voilà, après, se dire que parce qu'ils vont introduire davantage de sécurité, il va y avoir un peu plus de défiance.
Non, mais un argument que les concurrents pourraient mettre en avant.
Oui, voilà.
C'est pour ça que je parlais de mauvaise foi. C'est plutôt une histoire de
mettre en avant. Les Américains sont des commerçants. Enfin, il y aura des relations commerciales partout. Et puis, ils sont s'adaptés.
Voilà.
En tout cas, Thales dit bien qu'aux États-Unis, c'est son troisième marché. Et ça devrait continuer à fonctionner.
C'est pas fini, les décodeurs de l'écho. On va se retrouver dans un instant sur BFM Business, à la télé, à la radio. Est-ce que Thales Gemalto, c'est notre nouvel ange gardien? On viendra notamment aussi sur les questions de défense. Est-ce qu'on va faire la guerre différemment? Oui, enfin, est-ce que nos soldats vont faire la guerre différemment? Puis juste, puisqu'Anne-Sophie Bordry nous le laissait entendre, est-ce qu'on aura encore des cartes SIM à terme ? On entendra Philippe Vallée. À tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho, évidemment, autour de cette annonce, hein, bon, qui devront rester là. A priori, il ne devrait pas y avoir un Frédéric nouvelle offre. Hein.
Non, c'est...
Gemalto, Thales.
Oui, c'est juste soumis. Il y a les autorités de la concurrence dans différents pays qui doivent. Mais il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir dans ce domaine à l'heure actuelle.
Bon, l'idée, c'est d'en faire un géant mondial de la sécurité informatique. Et on l'a vu, donc, avec des applications extrêmement variées. On a vu comment les deux boîtes sont extrêmement complémentaires, donc, avec la connectivité de Thales, la sécurité, donc, de Gemalto. Tiens, juste derrière, hein, ce qu'il faut dire, Frédéric Sibotel, sont des entreprises avec des grands talents à chaque fois. Ça, c'est important à souligner. On revient quelque part sur la qualité de nos ingénieurs en France.
Oui, la qualité des ingénieurs. Gemalto, c'est 15 000 ingénieurs à mise en avant. Alors, certes, s'étendre là-dessus, mais il y a une division qui souffre un peu parce que il y a un marché, voilà, il y a des conjonctures de marché qui font qu'au niveau de la carte à puce, voilà, il y a eu aux États-Unis, enfin voilà, il y a deux trois choses qui ont un peu moins bien fonctionné. Il n'empêche une forte compétence et de la même façon chez Thales avec des centres de développement aux États-Unis, en France. Enfin, voilà, on est dans un monde d'ingénieurs, on est dans un vrai mariage technologique avec oui des pointures, hein, on peut le dire dans le domaine.
Oui, alors la fameuse carte SIM, tiens, parce que vous l'avez tous abordé dans la première partie, est-ce qu'on aura toujours une carte SIM comme celle que l'on connaît justement et surtout dans le cas de cette nouvelle union Thales-Gemalto? Oui, Gemalto qui travaille sur une nouvelle carte SIM embarquée. Donc, Philippe Vallet, le patron de Gemalto, c'était tout à l'heure à la conférence de presse. On l'écoute, on revient tout de suite, ça mérite des explications.
Si vous mettez une carte SIM classique dans une voiture aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça vibre, une voiture, il y a des chocs. Une des raisons pour lesquelles on connecte la voiture, c'est pour pouvoir lancer un appel de détresse en cas d'accident. D'accord? Si vous mettez une carte SIM classique, il y a beaucoup de chances que le lecteur bouge et que la carte sorte de son logement, de façon parfois très violente. Si vous la soudez, cette carte, si vous l'intégrez de façon différente, vous avez une garantie supplémentaire que la connexion continuera à se faire. Voilà pourquoi il nous faut de nouvelles formes, de nouveaux facteurs de forme sur ce produit. Donc, il est évident que notre intérêt, c'est de continuer à livrer et à vendre des cartes SIM à nos clients pour justement les accompagner dans cette transformation.
Alors, Olivier Arsan, président d'Axility, donc spécialiste de l'Internet des objets qui gère toutes les infrastructures de ces objets connectés. On vient d'écouter Philippe Vallet. Ça veut dire quoi, cette nouvelle carte SIM, cette eSIM ou autre, enfin, quel que soit le nom, qu'est-ce qu'on aura dans notre portefeuille à terme?
Voilà, c'est exactement ce qui venait d'être expliqué. La carte SIM matérielle qu'on tient dans sa main disparaît.
C'est fini.
Elle est soudée dans l'objet, quel que soit l'objet. Derrière ça, il y a un enjeu de pouvoir colossal. Il y a une vraie guerre, hein, qui a été livrée contre les opérateurs télécoms. Le problème, c'est que l'objet dans lequel la carte SIM est soudée, c'est lui qui choisit son opérateur. C'est-à-dire que c'est demain Apple ou Amazon qui choisit l'opérateur, qui le met en concurrence, qui en change si un deuxième fait un centime de moins que le premier. Et donc derrière, ce qui se passe, c'est la commoditisation des tuyaux, la prise de pouvoir par les fabricants d'objets. Et donc ce sont des enjeux qui vont bien au-delà de savoir si c'est soudé ou pas.
Juste de ce petit morceau de plastique, soudé ou pas. Anne-Sophie Bordry, à la tête du think tank de l'Internet des objets.
Oui, c'est vrai que ça rentre en jeu dans la stratégie des déploiements des objets connectés et des services connectés. La carte SIM, c'est probablement celle qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est le DVD d'il y a 10 ans. Et maintenant, si on regarde chez Sigfox, ils ont intégré dans le silicium l'équivalent d'une authentification qui remplace la carte SIM.
Elle reste dans l'appareil, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire finalement.
Oui,
même quand l'utilisateur, quand l'opérateur, ça reste tout le temps.
C'est comme le numéro d'identification EMEI qu'on a sur nos téléphones.
Oui, sur les téléphones, oui, tout à fait. Frédéric Simotel, là.
Oui, ben il va falloir. On parle beaucoup. Philippe Vallet l'a dit. On va accompagner avec Thales. On va accompagner la transition vers cette eSIM.
Quand? C'est quand?
Oh ben là, ils sont déjà en train de travailler dessus. Hein, faut...
On l'a vu, les applications, elles sont extrêmement nombreuses, donc de ce mariage Thales-Gemalto pour en faire un géant mondial de la sécurité informatique. On a vu sécurité dans les aéroports avec les drones, la banque à distance, bien sûr, la notion d'identité numérique, évidemment, tout ça est transversal. La sécurité, donc, des trains connectés, des drones, des voitures autonomes. Tiens, la défense, Nicolas Arpagian, justement. Patrice Ken, il se présente un peu comme le premium de la cyberdéfense. Quelles implications ça va avoir dans la façon de faire la guerre à l'avenir, justement?
Bah, en fait, ça va continuer. Le ministère de la Défense, le ministère des Armées, a exactement la même mutation technologique que l'industrie, que les activités commerciales. C'est-à-dire que là où vous aviez avant des personnels embarqués dans des avions, là maintenant, effectivement, on va l'automatiser. Lorsque vous aviez des analyses qui étaient faites par des techniciens, elles sont faites par des algorithmes. Et donc, au fur et à mesure, il faut s'assurer d'une part de l'intégrité des informations qui sont collectées de manière à ne pas que votre ennemi ne vous leurre pas avec des informations erronées.
Et qu'on ne tire pas sur n'importe qui.
Alors ça, c'est déjà dans la collecte d'informations pour ensuite permettre la bonne prise de décision par le décideur, militaire ou politique, qui pourra se fonder justement sur des éléments qui lui auront été remontés à partir de ces éléments-là, et qu'il puisse donner ses ordres également de la manière la plus étanche possible. Et donc on a toute cette chaîne d'informations qui se nourrit avec en plus des échelons sur le terrain, des états-majors intermédiaires en quelque sorte, et jusqu'à le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense. Donc on a toute cette chaîne qui doit être en permanence irriguée avec des informations qui descendent, qui montent du terrain, de manière à avoir des équipements. On a le fameux, ce que vous appelez le soldat connecté, que ce soit les différents programmes militaires. C'est un équipement d'une part pour collecter de l'information sur l'environnement dans lequel on se trouve et également sur le système d'armes. C'est à faire en sorte que, effectivement, quand on va déclencher un tir, que ça soit fait de manière claire. Voilà. Et donc, on va bien se retrouver dans l'ensemble de ces phases qui vont être numérisées et il faudra donc mettre, un, de la continuité d'activité, faire en sorte qu'elle ne soit pas interrompue. Deuxièmement, de la confiance, c'est-à-dire que vous n'ayez pas de doute sur ce que vous avez comme remontée d'information, que ça corresponde bien à la réalité de la situation. Et troisièmement, que quand vous donnez un ordre, cet ordre soit bien exécuté. Et c'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'on va tirer ici, c'est pas à une distance autre, et de manière à ce que la cible soit bien celle qu'on a envisagée. Vous voyez bien que tout ça, vous ne pouvez le faire qu'avec évidemment des services qui ne peuvent avoir un taux d'erreur qui doit être minimal ou en tout cas proche de zéro, d'ailleurs, qui est vraiment la culture des militaires. Et deuxièmement, dans un univers de confiance, avec quelque chose de performant. Donc les ministères de la Défense sont toujours des gros consommateurs de ces outils parce que ça accompagne effectivement la numérisation, la transformation numérique de leur activité. La seule chose, c'est qu'effectivement, chacun souhaite conserver la main sur cette expertise parce que si on commence à avoir des moyens d'interception, on évoquait éventuellement la problématique des backdoors, de ces portes dérobées, bah vous voyez bien que la prestation de service de la défense risquerait d'être altérée.
Oui, c'est l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, toujours au gouvernement, mais ok, hein, qui expliquait que l'intelligence artificielle, c'est un élément de notre souveraineté nationale. Est-ce que c'est la nouvelle arme des militaires? Vous étiez au Salon du Bourget, l'édition 2017, François Chopard à la tête de l'incubateur Starburst Accélérateur. Vous avez fédéré justement toutes sortes d'acteurs de la défense. Scène pertinence encore plus, 6 mois après, donc, ce mariage Thales, Gemalto, en matière de défense nationale, en matière de guerre.
Bien sûr, le premier objectif de cette cryptographie et de ces aspects biométriques, c'est de se protéger dans notre système de communication pour pas que on ait des intrus, des hackers russes ou chinois qui viennent s'infiltrer dans le réseau de communication de la défense et perturber les ordres. Donc c'est le premier objectif avant de penser à attaquer c'est vraiment de protéger son système d'information pour que les armées puissent communiquer de manière fluide et sécuritaire.
Oui, nécessairement. Oui, Olivier Hersant, toujours sur ce domaine présent d'Actility, il existe déjà un certain nombre de choses, des essaims de drones, des robots autonomes, des plateformes pilotées à distance, justement. Elle va faire comme ça, la guerre, à terme, justement, à base d'objets connectés?
Alors, à base de prise de contrôle des objets connectés, certainement, on peut penser au smart grid, par exemple, ce fameux concept où demain, ce sont vos radiateurs, vos chauffe-eau qui sont à une très large échelle pilotée pour stocker l'énergie renouvelable. Alors c'est très bien, on a tous envie de le faire et on va le faire, et dans les pays d'Asie, c'est en route. Maintenant, imaginez ce qui se passe si d'un seul coup, on arrête tous les climatiseurs dans un pays. Vous avez un blackout. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment éviter une prise de contrôle des plateformes centrales par une puissance étrangère. Et on en est loin. Aujourd'hui, il y a encore quelques jours, vous avez une grosse partie du trafic européen qui a été détournée par la Russie. Je ne sais pas si on en a beaucoup parlé. Deux jours, vous aviez bien 25% du trafic européen qui a fait un petit séjour par la Russie. Donc ça arrive.
Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé là?
Ce qui arrive, c'est quand vous tapiez Google, ça passait par la Russie. Il y a un système qui s'appelle le routage dans l'Internet, BGP pour les intimes,
qui a été
piraté par un Russe.
Qu'est-ce que ça faisait?
On vous a annoncé le 22 à Asnières, c'est-à-dire que Google, ça passait par la Russie. Et donc ces choses-là se produisent presque tous les jours. Donc l'internet est quand même sur des fondations relativement fragiles, sur lesquelles on construit de plus en plus des solutions industrielles, donc qui impactent la vie réelle. Et le besoin de sécurité, il est réellement urgent.
Frédéric Simotel, directeur de défense.
Oui, ce besoin de sécurité, on l'a dit tout à l'heure, entre du soldat connecté au char, enfin tous ces véhicules qui vont devenir autonomes. Et ils ont bien insisté sur ce domaine-là, puisque ce sont évidemment des marchés forts pour
Patrice Kane et Philippe Vallée,
pour Thales. Et là, ça va être des opportunités aussi pour Gemalto, parce qu'il faut parler aussi croissance économique. Là, on a une vraie complémentarité. Il n'y a pas trop de chevauchement de gamme, mais on va avoir pour Gemalto de nouveaux vecteurs de croissance au travers de cette sécurité au sein de la défense.
Et comme vous nous l'avez dit, donc pour Patrice Kane, il ne s'agit pas de diversification. C'est notre jardin, disait-il. Un mot pour terminer, Thales, Gemalto. C'est notre nouvel ange gardien. Allez, tour de table, chacun un mot. Nicolas Arpagian.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un équipementier qui va rendre disponible pour des acteurs français, européens, des solutions justement de confiance. Et ça, c'est important. Et c'est surtout le fait qu'on voit bien qu'on peut avoir une politique industrielle, qu'on n'est pas uniquement dans le curatif, mais que effectivement des acteurs...
On peut aller de l'avant.
Et, voilà. Et sans l'initiative de l'État, donc il n'y a pas besoin d'un commissaire à l'industrie, à la réindustrialisation. On voit bien que les industriels entre eux arrivent, s'ils s'entendent, s'ils ont un projet commun, à faire en sorte de construire justement une entreprise qui a un vrai avenir.
Anne-Sophie Bordry.
Je crois qu'aujourd'hui on rentre dans un terrain de jeu mondial et c'est très bien, on peut être positif et considérer que c'est un ange gardien pour les enjeux de Smart City notamment qui arrivent dès aujourd'hui.
Bien sûr, notamment pour construire tous ces quartiers divers et variés, je pense notamment au Grand Paris. Frédéric Simotel.
Oui, deux acteurs qui se réunissent à forte connotation industrielle et on peut dire que Gemalto va être le bras armé de la stratégie digitale de Thalès.
Thalès. François Chopard.
Oui, quand on voit que une caméra de vidéosurveillance qu'on achète dans le commerce et qu'on installe chez soi peut être hackée en moins de 30 secondes, le fait qu'un acteur comme Thalès Gemalto vienne sécuriser tous ces petits équipements qui sont notre quotidien aujourd'hui, alors certes pour Thalès c'est l'extension de l'aéronautique, du spatial, de la défense vers la sécurité des individus. On voit qu'aux États-Unis, entre liberté et sécurité, ils ont choisi la sécurité. Et quelque part, c'est en train de nous atteindre tous. Ouais, c'est un vrai sujet de société. Et Thalès Gemalto est extrêmement bien positionné.
Olivier Sang.
Moi, je dirais que c'est une preuve de plus que la France peut être le premier acteur de l'Internet des objets, pas à pas. Et je pense que si on ne rate pas l'opportunité, on sera effectivement aux premières loges de l'Internet des objets.
Eh ben, c'est la raison pour laquelle on vous en a parlé bien depuis toute la journée, sur l'antenne de BFM Business, à la télé, à la radio. Tout ça est porteur d'espoir quand on vous écoute l'une ou l'autre. Nicolas Arpagian, expert cybersécurité à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, auteur de Ce que sais-je sur la cybersécurité, on le rappelle, qui fait foi. Anne-Sophie Bordry à la tête du think tank des objets connectés. Frédéric Simotel, donc, qui vous accompagne tout au long de la journée. Il est éditorialiste high-tech à BFM Business. François Chopard, président de l'incubateur Starburst Accelerator, membre du GIFA, c'est-à-dire les industries de l'aéronautique et du spatial. Et puis Olivier Hersant, l'un des acteurs aussi de l'Internet des objets qui gère les infrastructures des objets connectés à la tête d'Actility. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.